Bien, comme je vous l'ai annoncé tout à l'heure, on reçoit donc aujourd'hui le professeur Christine Kaiser. Elle travaille à l'Institut, tu me corriges si je me trompe, à l'Institut médico-légal du Centre hospitalier universitaire de l'Université de Strasbourg. Allez, qui, j'ai tout faux? Presque.
Je ne suis pas encore professeur. Ouais. Mais c'est surtout à l'Institut de médecine légale de l'Université de Strasbourg.
Ouais.
Oui. Bon.
Alors, je suis presque tout juste. Elle est spécialiste d'ADN. Parce que l'Institut médico-légal, hein, vous voyez à quoi ça sert l'ADN, hein, d'accord? Bon, alors elle est au départ spécialiste d'ADN. Et puis elle s'est laissée convaincre par des collègues qui faisaient de l'homo plus ancien par le fait que bah, peut-être on pouvait trouver aussi de l'ADN chez ceux-là. Alors, aujourd'hui, je lui ai demandé, je ne sais pas ce qu'elle va faire, bien que je lui ai demandé un résumé avant. Je lui ai demandé de vous parler de cela, mais aussi je lui ai demandé, ce que je vous disais tout à l'heure, de vous parler des Néandertaliens, parce que j'aimerais bien que vous entendiez le point de vue de quelqu'un qui est neutre par rapport à ce qui se passe. Et je trouve que pour les Néandertaliens, on exagère un peu, parce que tous les quatre matins, on a la une de certains journaux qui sont faits pour vendre je ne sais pas quoi, mais quand on collectionne les 10 journaux, on s'aperçoit que, rapidement qu'ils vous racontent comme quelque chose de tout nouveau, exactement le contraire de ce que disait le journal d'avant, quoi, hein. Alors, j'aimerais bien que vous ayez au moins le point de vue pertinent ou impertinent, je n'en sais rien, ça c'est comme tu veux, de quelqu'un qui est spécialiste. Christine, c'est à toi, merci. Quand même, elle vient de Strasbourg, hein, c'est loin.
Donc, mesdames et messieurs, chers collègues, il y a plus d'un quart de siècle était mise en évidence la possibilité d'accéder à l'information génétique conservée dans des restes archéologiques. Donc cette découverte a permis la mise en place d'une nouvelle discipline, la paléogénétique ou étude de l'ADN ancien, discipline qui a ouvert de nombreuses perspectives de recherche dans beaucoup de disciplines scientifiques, parmi lesquelles l'anthropologie et la paléoanthropologie. Donc cette conférence s'inscrit dans le cadre d'un cycle de cours et séminaires intitulé « Histoire et évolution des hominidés anciens, ce que l'on sait, ce que l'on croyait savoir, ce que l'on ne sait pas ». Je vais donc, au travers d'exemples puisés dans la littérature, mais également dans mes travaux de recherche, essayer de vous montrer les apports de l'ADN ancien, autrement dit ce que l'on sait à partir des données paléogénétiques ou anciennes, vous montrer également les hypothèses que l'on déduit de ces données, hypothèses qui, comme nous le verrons, effectivement, sont parfois démenties et qui deviennent finalement ce que l'on croyait savoir, et puis également les informations que l'on déduit en extrapolant ces données qui relèvent parfois de la fiction et donc finalement de ce que l'on ne sait pas. Alors avant de vous présenter ces exemples, je voudrais dire deux mots, en fait rappeler simplement l'historique de la discipline, souligner également les difficultés inhérentes à l'étude de molécules d'ADN anciennes qui sont de ce fait extrêmement dégradées, et également vous présenter rapidement les outils moléculaires dont disposent les paléogénéticiens. Alors la preuve que de l'ADN pouvait être conservé dans les restes anciens a été démontrée en 1981 par Wu et Lu, qui ont pour la première fois effectivement montré qu'on pouvait extraire de l'ADN à partir d'une momie retrouvée en Chine. Mais il faudra attendre les travaux d'Higuchi et Toll en 1984 pour que cette preuve que de l'ADN pouvait subsister soit reconnue par la communauté scientifique internationale. En effet, ces auteurs ne se contentèrent pas d'extraire de l'ADN, mais ils réussirent à cloner et à amplifier une séquence d'ADN qui leur permit de démontrer effectivement que l'espèce à partir de laquelle ils avaient extrait l'ADN, qui est un quagga, et donc à partir de ce de tissu mou de ce quagga taxidermisé, ils réussirent à démontrer eh bien, qu'il était plus proche finalement du zèbre que de toutes les autres espèces d'équidés. Cette prouesse technique fut suivie de peu par le clonage de la première séquence humaine ancienne, donc extraite à partir d'une momie égyptienne datant de 2400 ans. Cette prouesse technique, cette étude qui a été menée par Svante Paabo, a également mis en exergue les difficultés liées à l'étude de l'ADN ancien, puisqu'effectivement, sur les 23 momies qu'a étudiées Paabo, eh bien, seule une a permis de donner une séquence ancienne. Donc, en fait, ce résultat était lié d'une part à la dégradation de l'ADN et d'autre part au fait que la technique utilisée alors, le clonage bactérien, est une technique qui nécessite de l'ADN de très bonne qualité. Heureusement, peu de temps après, était mise une technique au point, la technique d'amplification de l'ADN par PCR ou réaction de polymérisation en chaîne. Donc, c'est une technique d'amplification in vivo qui permet d'amplifier l'ADN et d'en obtenir des millions de copies, donc à partir d'une quantité effectivement infime au départ. Donc, grâce à ces techniques, l'ADN ancien et les études liées à cet ADN ancien vont prendre véritablement leur essor. Toutefois, à cette époque, ces études étaient limitées à l'extraction d'ADN à partir de tissus mous et bien sûr, il devenait important d'essayer d'obtenir de l'ADN à partir des restes qui sont les plus fréquemment retrouvés finalement sur les sites archéologiques, qui sont les tissus durs. Eh bien, en 1989, trois équipes ont décrit simultanément la possibilité d'extraire de l'ADN à partir d'os et de dents. Alors, à partir de ce moment-là, les années 90 marqueront une sorte de ruée vers l'ADN fossile. C'est un petit peu une course à celui qui va obtenir la séquence ancienne, la plus ancienne, justement. Et puis, donc, un certain nombre d'articles vont être publiés sur le sujet. Et puis, dans le même temps, il va y avoir une sorte de prise de conscience sur l'authenticité des résultats. Et peu à peu, on se rend compte, en examinant de manière un peu plus attentive les résultats, eh bien que peut-être, effectivement, ces séquences ne sont pas si anciennes que cela. En effet, des travaux ont été publiés notamment à partir d'ADN extrait d'insectes préservés dans l'ambre depuis plusieurs millions d'années, voire des séquences de dinosaures datant de plus de 100 millions d'années. Eh bien, l'examen de ces séquences a en fait révélé qu'il s'agissait de contamination. Donc, à partir de ce moment-là, effectivement, il fallait se rendre à l'évidence. L'ADN n'est pas éternel dans les fossiles. En effet, l'ADN subit en fait des processus de détérioration post-mortem qui fait qu'en fait, peu de molécules subsistent dans les restes anciens. Et donc, parce qu'il est présent en très petite quantité, il impose des protocoles spécifiques d'extraction et d'amplification. Les molécules anciennes étant systématiquement fragmentées et chimiquement modifiées, ces molécules ne peuvent être étudiées que sur de courtes régions, donc généralement inférieures à 400 paires de bases, car elles sont possiblement complexées à des molécules qui vont inhiber les réactions d'amplification par PCR, eh bien, ces molécules anciennes restent parfois inexploitables, en dépit effectivement, de toutes les stratégies que l'on cherche à mettre au point pour lever ces inhibitions. Enfin, extrêmement sensibles aux contaminations par de l'ADN moderne exogène, eh bien, l'analyse de molécules anciennes impose des équipements spécifiques, des locaux spécifiques et également des précautions spécifiques justement pour respecter les critères d'authenticité. Alors, pour toutes ces raisons, parce qu'effectivement l'ADN est dégradé, les paléogénéticiens ont longtemps privilégié une molécule d'ADN présente en grand nombre dans les cellules. Il s'agit de l'ADN mitochondrial, présent dans les mitochondries, des organites du cytoplasme cellulaire qui jouent un rôle important dans la cellule, puisqu'elles fournissent l'énergie nécessaire au fonctionnement de ces cellules. Donc l'ADN que l'on trouve dans les mitochondries est un ADN circulaire de petite taille qui porte principalement des séquences codantes, à l'exception d'une région qu'on appelle la région de contrôle et qui est le siège qui ne code pour aucune protéine et le siège de nombreuses mutations, notamment au niveau de deux régions appelées HV1 et HV2 pour région hypervariable. Alors l'ADN mitochondrial en fait présente un certain nombre de caractéristiques qui en font un matériel de choix pour les études anciennes. Tout d'abord, comme je le disais, il est présent, contrairement à l'ADN nucléaire qui est présent en un seul exemplaire dans chaque cellule, l'ADN mitochondrial est présent en un grand nombre de copies. Donc on peut trouver effectivement plusieurs centaines à plusieurs milliers de molécules d'ADN mitochondrial dans chaque cellule. Il présente un taux de mutation élevé, ce qui permet effectivement de retracer l'évolution moléculaire des êtres vivants. Il ne présente pas de recombinaison, il n'est pas soumis à ce mécanisme de recombinaison. Il est donc transmis sans changement d'une génération à la suivante. Enfin, il présente une transmission strictement maternelle. En effet, les mitochondries du spermatozoïde sont localisées, vous le voyez, dans le flagelle pour fournir l'énergie nécessaire au mouvement. Et donc, lors de la fécondation, seule la tête du spermatozoïde va pénétrer. Les mitochondries paternelles restent à l'extérieur. Elles ne participent donc pas au patrimoine génétique de l'embryon. Effectivement, toutes ces caractéristiques vont faire que l'ADN mitochondrial va être utilisé donc, pour les analyses d'ADN ancien, pour identifier les lignées maternelles et également pour estimer l'origine biogéographique des individus. Alors, bien entendu, cet ADN mitochondrial ne permet de retracer qu'une partie de l'histoire des individus et il était quand même intéressant de s'intéresser à l'ADN nucléaire. Alors, si cela était un petit peu difficile au début des analyses d'ADN ancien, les progrès technologiques qui ont été réalisés au cours des dernières années nous permettent désormais effectivement de nous intéresser à l'ADN nucléaire, donc présent dans le noyau sous forme de chromosomes, hérité pour moitié du père et pour moitié de la mère. Donc dans l'espèce humaine, vous avez dans les cellules nucléées 46 chromosomes, donc 22 paires de chromosomes qu'on appelle homologues et une paire de chromosomes sexuels, donc XX chez la femme, XY chez l'homme. Alors l'ADN des chromosomes homologues ou autosomes présente des caractéristiques extrêmement intéressantes, puisque, vous le savez, il est transmis selon les lois de Mendel, ce qui signifie que chaque individu transmet la moitié de son patrimoine génétique à chacun de ses enfants. Les autosomes sont également des chromosomes homologues et du fait de cette homologie, ils peuvent échanger du matériel génétique entre les chromosomes. C'est ce qu'on appelle la recombinaison et ces mécanismes de recombinaison créent un brassage génétique, une variabilité génétique que l'on va mettre à profit, d'une part donc pour identifier les individus, établir un profil génétique ou une empreinte génétique, comme on fait en criminalistique pour caractériser un individu, et également, du fait de cette transmission selon les lois de Mendel, on va pouvoir retracer des liens de proche parenté. Alors bien sûr, si je le dis, les autosomes en fait sont formés de paires qui sont quand même très proche. Il n'en est pas de même pour les chromosomes sexuels, puisque vous voyez que les chromosomes X et Y sont très différents. Le chromosome Y présente également des particularités qui en font un matériel de choix pour les investigations génétiques. Il est présent en principe chez les individus de sexe masculin uniquement. Il est transmis de manière uniparentale, puisque seuls les individus masculins transmettre ce chromosome à leur descendance masculine uniquement. Donc ça, c'est une différence avec l'ADN mitochondrial que la mère va transmettre à ses enfants, quel que soit le sexe. Il ne subit pas le mécanisme de recombinaison, il est donc transmis, inchangé, de père en fils. Donc l'étude du chromosome Y va permettre d'établir des filiations, de retracer des lignées paternelles sur un grand nombre de générations et également d'estimer l'origine géographique des individus. Vous voyez en effet que, excepté deux petites régions ici qu'on appelle les régions pseudo-autosomales, eh bien, le chromosome Y est composé d'un ADN qui lui est spécifique, ce qui fait qu'il n'échange pas d'ADN avec le chromosome X et est donc transmis inchangé de père en fils, ce qui fait qu'un individu a le même chromosome Y que son père, son grand-père, son arrière-grand-père, et ainsi de suite. Alors, quels sont les marqueurs que l'on va étudier sur ces deux ADN, donc l'ADN mitochondrial et l'ADN nucléaire? Deux types de marqueurs. Le premier, c'est ce qu'on appelle les microsatellites ou les STR, pour short tandem repeats. Donc, vous voyez, il s'agit de petites régions constituées par la répétition d'un petit motif nucléotidique, donc par exemple les bases AATG, qui vont être répétées les unes à la suite des autres en un nombre qui varie beaucoup selon les individus, ce qui va en fait générer un polymorphisme de taille. Alors ces séquences STR vont permettre, lorsqu'on les étudie sur les autosomes, d'établir ce qu'on appelle un profil génétique qui est propre à chaque individu, à l'exception des jumeaux monozygotes, qu'on n'arrive pas encore à distinguer. Donc voici ce profil. Vous voyez ici la nomenclature 10 ici indique effectivement que dans cet allèle, on a 10 répétitions. 13 indique qu'on a 13 répétitions. Et on a effectivement deux pics, puisque un allèle provient du père et un allèle provient de la mère. Ces séquences microsatellites, on peut également les trouver sur le chromosome Y. À partir de ce moment-là, je vous l'ai dit, c'est transmis en bloc d'une génération à la suivante, ce qui veut dire qu'ici, c'est cette combinaison des allèles 10, 13, 12, 12 qui va être transmis à la descendance. Alors pourquoi, effectivement, pourquoi est-ce qu'on a un seul pic? Parce qu'on a cette fois uniquement un allèle présent sur le chromosome Y. On ne parle plus, vous le voyez, de profil génétique, mais d'haplotype Y, parce que cet haplotype ne caractérise pas un individu, mais une lignée paternelle. Alors, ce sont des marqueurs qui ont un taux d'évolution relativement rapide, donc qui permettent en fait de faire des études sur des échelles de génération relativement petites, mais qui ne permettent pas effectivement de travailler dans des échelles de temps importantes. Donc, on dispose également d'autres marqueurs qu'on appelle les SNP, pour single nucléotide polymorphisme, qui sont des mutations ponctuelles que l'on trouve aussi bien sur les régions codantes que non codantes. Les STR, en fait, étaient uniquement trouvés dans les régions codantes et présents à la fois sur l'ADN nucléaire et l'ADN mitochondrial. Donc, vous voyez, ces SNP, on va les étudier sur l'ADN mitochondrial. On va obtenir ce qu'on appelle, vous voyez ici, une séquence. Quand on parle de séquençage, c'est réellement la détermination de l'enchaînement des bases le long de la molécule d'ADN. On va également obtenir ce qu'on appelle des haplogroupes, qui sont des groupes d'haplotypes ayant une origine ancestrale commune. Lorsque l'on étudie ces SNP ou ces mutations ponctuelles sur les chromosomes homologues ou sur les autosomes, on va être capable de déterminer des caractéristiques phénotypiques, telles que la couleur des yeux, des cheveux ou de la peau. Lorsque l'on étudie ces marqueurs sur le chromosome Y, eh bien, on va être capable d'obtenir des haplogroupes Y qui vont nous permettre de retracer les migrations et donc d'estimer des schémas de migration. Alors, ce sont effectivement des marqueurs à évolution plus lente qui permettent de travailler, je l'ai dit, à des échelles de temps un peu plus grandes. Donc, en résumé, retenez qu'on va travailler sur l'ADN mitochondrial et sur l'ADN nucléaire. Sur l'ADN nucléaire, on va travailler avec des STR pour établir des liens de proche parenté quand cela est possible. Avec le chromosome Y, on va plutôt essayer de retracer des lignées paternelles sur un grand nombre de générations. Et avec l'ADN mitochondrial, on va plutôt chercher à retracer des lignées maternelles. Donc voilà les outils dont on dispose. Alors maintenant que vous maîtrisez parfaitement les outils du biologiste moléculaire, je vais en arriver aux applications. Alors souvent la question qu'on me pose, c'est « mais à quoi ça sert tout ça ?» Donc pour vous montrer, j'ai pris l'exemple ici de cette sépulture médiévale du cimetière de Villarnaud dans les Pyrénées-Orientales. Donc quand vous regardez effectivement cette sépulture, vous observez trois squelettes avec ici un jeune entre les deux. Donc là, ce qui, en tout cas, moi, me vient à l'esprit, c'est qu'on a ici l'homme qui pose délicatement sa main sur la joue de la femme et entre les deux, on trouve leur bébé. Simplement, quand on fait des investigations génétiques, on se rend compte qu'il n'y a pas un homme et une femme, mais deux femmes, et que l'enfant qui est entre les deux n'est l'enfant d'aucune des deux femmes. Un autre exemple concerne l'étude d'une nécropole Yunnu, datant du 3e siècle avant Jésus-Christ au 2e siècle après Jésus-Christ, une nécropole qui se situe donc au nord de la Mongolie, au confluent de la rivière Egingol et du fleuve Selenga, un affluent du lac Baïkal. Donc l'étude exhaustive de cette nécropole a mis au jour en fait 84 tombes abritant 99 squelettes en connexion et dans un état de conservation assez exceptionnel. Je vous ai mis ici une petite photo d'os pour que vous voyez en fait l'épaisseur de la corticale. Et là, je pense que Michel va être un petit peu jaloux par rapport à ce qu'il peut trouver effectivement lui. Alors bien sûr, c'est très très jeune, ça finalement, ça ne date que de 2400 ans, mais effectivement, à partir de cette corticale épaisse, eh bien, on va pouvoir extraire l'ADN et travailler sur un grand nombre de marqueurs. Alors les Yunnu, en fait, étaient des cavaliers nomades qui ont dominé la plus grande partie de la Mongolie. Ils ont fondé le premier empire des steppes et ont représenté une sérieuse menace pour la Chine, puisque c'est pour lutter contre leurs nombreuses incursions que, vous voyez, on a commencé à construire la Grande Muraille. Alors, sur ces 99 individus, on a tenté des investigations génétiques. Donc, vous voyez qu'on a travaillé en première approche sur l'ADN nucléaire, donc contenu dans le noyau des cellules. On a étudié d'une part les STR autosomaux, d'autre part le locus de l'amélogénine qui permet de déterminer le sexe des individus, ce qui est bien sûr extrêmement important. L'amélogénine est une protéine dont le gène est localisé sur les chromosomes X et Y, mais vous voyez que sur le chromosome X, il présente une délétion de 6 paires de bases, qui fait que quand on amplifie cette région, vous voyez, on va obtenir pour le chromosome X un fragment de 106 nucléotides et pour le chromosome Y un fragment de 112 nucléotides. Et donc là, on sait qu'on est bien en présence d'un individu masculin. Si on avait eu un seul pic, cela signifiait qu'on avait la même taille 106 nucléotides deux fois, donc on était bien XX pour une femelle. Ces investigations nous ont permis d'obtenir des résultats, des profils génétiques plus ou moins complets pour plus de la moitié des individus étudiés. Nous avons également vu que les données moléculaires correspondaient aux données morphométriques, ce qui finalement nous donnait une indication de l'authenticité des résultats. Et puis surtout, nous avons pu mettre en évidence un certain nombre de liens de proche parenté qui sont indiqués ici par des flèches. Notamment, nous avons pu démontrer ici qu'a priori, donc sur la base des STR nucléaires, nous avions une petite famille composée du père, de la mère et d'un enfant. Vous voyez, d'autres liens de parenté ont été mis en évidence. Dans un second temps, nous avons cherché à valider ces résultats, d'une part en travaillant sur l'ADN mitochondrial qui retrace les lignées maternelles, le chromosome Y qui retrace les lignées paternelles, et nous avons effectivement confirmé que la mère et l'enfant avaient bien le même ADN mitochondrial et que ce même enfant partageait le même chromosome Y que son père, ce qui a permis de valider ces résultats. Ça a également permis de nous donner d'autres indications, notamment dans le secteur C. Nous avons mis en évidence 6 individus, 46, 47, 50, 52, 53, 54, qui présentaient le même chromosome Y. Donc un regroupement d'individus dans cette partie de la nécropole ou un clan familial présentant en tout cas le même chromosome Y. Donc vous voyez comment les résultats des analyses génétiques nous ont permis d'étudier l'organisation, le recrutement de la nécropole. On voit les recrutements étaient faits surtout sur la base de liens de parenté, mais également sur la base peut-être de clans familiaux, voire d'une élite sociale. Un autre exemple concerne la tombe princière site de Bérel, donc une tombe qui a été mise au jour dans le village de Bérel au Kazakhstan oriental, et vous voyez une tombe qui est en fait surmontée d'un tumulus. C'est une tombe site, or les sites étaient un peuple de tradition orale, et donc en fait les seules choses qui sont connues sur ce peuple, on le sait au travers des récits d'Hérodote, qui décrivait qu'à la mort d'un prince, eh bien, les hommes en fait, coupaient leurs cheveux, lacéraient leurs oreilles, tailladaient leurs bras et transperçaient leurs mains avec une flèche, et que le cortège funèbre donc, étranglait l'une des concubines du prince et ses meilleurs chevaux, et qu'il les mettait près du corps. Donc vous imaginez que quand on a ouvert cette tombe princière, il y avait quand même une certaine magie autour de cette ouverture. Et effectivement, dans cette tombe, à l'ouverture, on découvre donc sous ce tumulus une vaste fosse rectangulaire qui est composée en fait de deux parties. Une partie avec, vous le voyez, 13 chevaux sacrifiés et harnachés répartis sur deux niveaux. Et une autre partie qui contient une chambre funéraire contenant, vous le voyez, un sarcophage. Dans ce sarcophage, les anthropologues ont découvert les corps de deux individus, un homme âgé d'une quarantaine d'années et une femme de plus de 60 ans. Le rapport de fouille révèle en fait que l'homme aurait été inhumé avant la femme et qu'effectivement un pillage aurait eu lieu à partir donc du sommet du tumulus. La chambre funéraire, vous voyez, a été ouverte, le sarcophage également. Le prince a été dépouillé de ses atours. Et donc, ce n'est que quelques temps après, donc après ce pillage, près de 20 ans après ce pillage, que le corps de la femme aurait été déposé. Donc, c'est une pratique funéraire assez inhabituelle. Et donc, on nous a demandé d'essayer de mettre en évidence les liens de parenté ayant pu exister entre ces deux individus. Donc, effectivement, vous avez ici le sujet masculin, le sujet féminin moins bien conservé, puisqu'a priori, en fait, la femme souffrait d'ostéoporose. Nous avons sur ces deux individus donc, testé dans un premier temps les STR nucléaires et dans un second temps séquencé l'ADN mitochondrial. Les résultats des STR autosomaux prouvent en fait qu'il ne peut s'agir d'une relation de type parent-enfant, puisqu'en fait, vous le voyez, on n'a pas un locus en commun pour chaque région testée. Hein, certaines fois, on n'a pas un allèle transmis par la mère ou le père. Donc, on a exclu cette possibilité d'une relation de type parent-enfant. Restait l'hypothèse d'une relation de type frère-sœur. Mais vous le voyez, lorsque l'on a séquencé l'ADN mitochondrial, l'homme, en fait, présente certaines mutations à certaines positions et la femme présente d'autres mutations. Donc on a également pu exclure une relation de type frère-sœur. Donc à partir de là, on en a conclu qu'il s'agissait vraisemblablement du prince et de sa femme, mais là encore, ça n'est qu'une hypothèse puisque finalement, on ne peut pas aller plus loin. Simplement à partir de la séquence mitochondriale de l'homme, qui est une séquence qui est en fait extrêmement fréquente en Europe. On a pu établir qu'a priori, ce sujet avait une origine européenne, alors que la femme, elle, présente une séquence que l'on peut relier à l'haplogroupe G2, qui est un haplogroupe qui est plutôt d'origine asiatique. Donc on a pu établir qu'effectivement, l'homme avait plutôt une origine européenne, la femme une origine asiatique, et montrer qu'apparemment, au IVe siècle avant Jésus-Christ, des unions mixtes existaient déjà. Donc vous le voyez, donc à partir de ces haplogroupes, on peut tenter de retracer les migrations, donc l'histoire évolutive des populations, et donc cela constitue un deuxième axe de recherche possible dans les études d'ADN ancien. Alors pour illustrer en fait cet axe de recherche, je vous propose l'exemple du peuplement de la Sibérie. En effet, une problématique était à l'origine de ce peuplement, puisque l'hypothèse qui était déduite de données archéologiques, anthropologiques et de génétique contemporaine était qu'à l'âge du bronze, les populations sibériennes présentaient essentiellement des traits morphologiques de type europoïde, et ce n'est qu'à l'âge du fer que seraient apparus les traits mongoloïdes qui caractérisent les populations actuelles. Donc bien sûr, cette hypothèse pose la question de l'origine de ces populations, d'où venaient-elles pour avoir ces traits européens. Alors nous avons eu la chance, grâce au professeur Éric Rubesi, en fait, d'accéder à des échantillons de différentes cultures datant de l'âge du bronze et de l'âge du fer, donc 26 individus provenant de la région de Krasnoïarsk, donc dans le sud de la Sibérie. Alors, à partir de ces 26 individus, nous avons donc réalisé des investigations génétiques, en commençant par étudier l'ADN mitochondrial. Donc, nous avons établi l'haplotype puis l'haplogroupe. Et vous le voyez, en fait, à l'âge du bronze, on se rend compte que les haplogroupes que l'on obtient sont principalement des haplogroupes d'origine européenne. Donc, on avait comme ça un petit peu validé cette hypothèse d'une prédominance de caractéristiques européoïdes à l'âge du bronze, alors que cette prédominance semble s'estomper à l'âge du fer, puisque là, on commence à avoir un certain nombre de séquences d'origine asiatique. Nous avons également étudié, bien sûr, le chromosome Y. Donc, tout d'abord, les STR qui permettent, je vous le rappelle, d'obtenir un haplotype. Vous voyez que ces haplotypes en fait, diffèrent d'un individu à l'autre, ce qui veut bien dire qu'ils ne sont pas de même lignée paternelle. En revanche, tous, à l'exception d'un, appartiennent à l'haplogroupe R1A1, qui est un haplogroupe en fait, qui est largement représenté dans toute l'Eurasie. Comme vous le voyez sur cette carte, en fait, c'est l'haplogroupe qui est représenté en bleu ciel, et vous voyez qu'on le retrouve un petit peu partout. Et bah, du coup, ça le rend finalement assez peu informatif pour essayer de retracer l'origine de ces individus. Il nous a donc fallu aller plus loin pour établir la présence de traits européoïdes chez ces Sibériens anciens et pour déterminer leur origine biogéographique. Nous avons donc choisi d'étudier des polymorphismes localisés au sein de gènes clés de la pigmentation. Effectivement, ces polymorphismes vont entraîner des variations individuelles de la pigmentation qui vont donc intéresser la couleur des yeux, des cheveux ou de la peau. Donc, le mécanisme de la pigmentation est un mécanisme relativement complexe qui fait intervenir un certain nombre de protéines. Et donc, nous avons ciblé un certain nombre des gènes codant pour ces protéines. Et donc, nous avons étudié différents SNP, différents polymorphismes ponctuels, pour déterminer soit l'origine biogéographique, soit la couleur des yeux, des cheveux ou de la peau. Donc vous avez donc ces analyses qui ont été réalisées sur les 26 sujets sibériens. Et à partir de ces résultats, nous avons pu établir que au moins 60% des sujets anciens étudiés avaient les yeux bleus ou verts, ou en tout cas les yeux clairs. En ce qui concerne les couleurs, la couleur des cheveux et de la peau, c'est un petit peu plus difficile à estimer, mais nous avons pu démontrer que la plupart devaient avoir les cheveux et la peau claire. Enfin, concernant leur origine biogéographique, vous voyez que près de 90% d'entre eux avaient vraisemblablement une origine européenne, deux présentaient une origine asiatique et un une origine mixte. Donc, à partir bien sûr de ces résultats, nous avons tenté de répondre à la question, mais à quoi ressemblaient les Sibériens à l'âge du bronze? Donc, avec mes collègues féminines, toute mon équipe, nous avons beaucoup travaillé et nous sommes arrivés à la conclusion que fort probablement, ils devaient ressembler à ça. Bon, vous voyez, on est ici malheureusement dans le domaine de la fiction. Plus sérieusement, les données que nous avons obtenues à la fois donc, sur l'ADN mitochondrial, le chromosome Y et les STR autosomaux, nous ont permis d'estimer que a priori, en fait, le peuplement de la Sibérie, du sud sibérien ou de la région de Krasnoïarsk tout du moins, pourrait être lié à la civilisation dite des Kourganes, en fait, qui est une civilisation justement de tombes à tumulus, à partir de cette culture des Kourganes qui provient, vous le voyez, des steppes du nord de la mer Noire et de la mer Caspienne, une civilisation qui, effectivement, est, je dirais, a beaucoup migré vers l'ouest, mais aussi vers l'est, et bien ce que l'on pense, c'est qu'effectivement, ils auraient éventuellement pu migrer jusqu'au Sid sibérien. Mais encore une fois, ce n'est qu'une hypothèse. Effectivement, nous tentons actuellement de valider cette hypothèse en cherchant d'autres échantillons biologiques anciens qui nous permettraient de la valider. On en arrive à présent à une des applications probablement les plus spectaculaires des analyses génétiques anciennes, qui concerne bien sûr l'évolution des hominidés et bien sûr de Néandertal, puisque vous savez que depuis sa découverte en 1856 dans la vallée de Neander en Allemagne, l'homme de Néandertal a suscité de nombreux débats. Représentant fossile du genre Homo qui a vécu en Europe et en Asie occidentale entre 250 000 ans et 28 000 ans avant notre ère, eh bien, l'homme de Néandertal a disparu d'une manière relativement énigmatique, puisqu'on ne sait effectivement, on ne connaît toujours pas les causes de son extinction. Ce que l'on sait, c'est que cette extinction coïncide néanmoins avec l'arrivée d'hommes anatomiquement modernes venus du Proche-Orient il y a 40 000 ans. Même si aucune preuve finalement n'atteste ce dire, il semblerait néanmoins que l'homme de Néandertal aurait pu cohabiter avec les premiers hommes modernes pendant près de 15 000 ans. Alors, qui était-il ? Alors évidemment, je ne suis pas la mieux placée pour vous décrire. Simplement, effectivement, on sait qu'il avait une corpulence massive et robuste, qu'il avait un crâne aussi volumineux que le nôtre, mais qui présentait des caractéristiques telles que le bourrelet susorbital, un front fuyant, un chignon occipital, l'absence de menton ou le prognathisme. Alors, ces caractéristiques, finalement, est-ce qu'elles sont dans les limites de notre variabilité morphologique ou est-ce une espèce vraiment à part ? Donc la question est finalement, y a-t-il eu métissage au moment de l'arrivée des premiers hommes modernes avec l'homme de Néandertal ou au contraire, l'homme moderne aurait-il remplacé l'homme de Néandertal ? Alors bien sûr, cette question a fait l'objet de nombreux débats. Tout d'abord traité par des études morphométriques qui, au début, semblaient montrer qu'effectivement, l'homme de Néandertal avait des caractéristiques qu'il aurait plutôt placé dans une espèce à part. Mais la découverte de certains fossiles, notamment du squelette d'un enfant découvert donc, au Portugal à la gare Vélo, un squelette de 4 ans, la découverte de ce squelette en fait, a un petit peu divisé les paléanthropologues, puisque pour certains, ce squelette présentait des caractères hybrides, donc certains caractères néandertaliens, d'autres de l'homme moderne. Pour d'autres, en fait, puisqu'il s'agissait d'un squelette d'enfant, il n'avait pas atteint sa maturation, et les caractères que l'on pouvait prendre pour des caractères néandertaliens étaient, pour ces anthropologues, plutôt liés à des facteurs de confusion, liés au fait que simplement l'enfant n'avait pas terminé son développement. Donc on n'a pas pu répondre à la question. Mais un autre argument en faveur d'un remplacement plutôt que d'un métissage, c'est peut-être que l'on n'a pas observé d'évolution dans les structures anatomiques des néandertaliens les plus récents. Pour autant, la génétique finalement a pris place à ce débat qui est relativement important dans la mesure où, si on considère qu'ils appartiennent à la même espèce, il faut à ce moment-là appeler Homo neanderthalensis. S'il s'agit de deux espèces différentes, je vous dis des bêtises. S'il s'agit effectivement d'espèces différentes, il faut l'appeler Homo neanderthalensis, mais s'il s'agit de la même espèce, dans ce cas-là, il faut l'appeler Homo sapiens neanderthalensis. Alors, la génétique, je vous disais, est entrée dans le débat à partir de 1997, puisque cette année-là, l'équipe de Svante Paabo a réussi à extraire et amplifier une séquence, la séquence mitochondriale HV1, à partir du spécimen de Feldhofer, donc le premier trouvé en 1856. La comparaison de cette séquence, de ce fragment d'ADN mitochondrial avec des hommes modernes montre qu'en moyenne, on avait à peu près 27 différences, alors que si on compare les séquences de deux hommes modernes ensemble, on a en moyenne 8 différences. Donc il y avait une importance, un nombre de différences beaucoup plus important. La même année, deux ans plus tard, la même équipe arrive à séquencer la région, cette fois HV2 de l'ADN mitochondrial. Et vous le voyez, l'analyse phylogénétique a été réalisée, place vraiment l'homme de Néandertal dans un clade à part. Alors bien sûr, ce qui s'est dit, c'est que on ne pouvait pas comme ça tirer de conclusion à partir de l'analyse d'un seul spécimen. Eh bien, en l'an 2000, Ovnischkov et ses collaborateurs sont parvenus à obtenir une séquence mitochondriale à partir d'un deuxième spécimen néandertalien, un spécimen d'enfant. Et vous voyez que malgré la distance qui sépare ces deux spécimens, plus de 2500 km, eh bien, les deux séquences en fait étaient très proches. Et vous voyez que la même année, effectivement, Sven Tepabo a extrait de l'ADN d'un troisième spécimen issu de Croatie, donc de la grotte de Vinja. Et lorsque vous comparez en fait les modernes et les néandertaliens, vous avez en moyenne 35 différences, alors qu'effectivement, quand on compare toujours des humains entre eux, on n'observe pas autant de différences. Et donc, vous voyez que ces trois séquences, finalement, se sont placées vraiment dans un clade différent, ce qui semblait signifier qu'effectivement, les deux espèces avaient évolué au moins au niveau du pool mitochondrial de manière totalement indépendante. Alors, bien sûr, certains ont dit « oui, mais là, on compare finalement les hommes de Néandertal aux hommes modernes ». En fait, pour être vraiment rigoureux, il faudrait comparer des séquences d'hommes modernes qui ont vécu au même moment que Néandertal, notamment l'homme de Cro-Magnon. Eh bien, une équipe italienne est parvenue en fait à extraire de l'ADN à partir de deux hommes anatomiquement modernes datant de 23 000 et 25 000 ans. Et vous le voyez, quand ils ont comparé les séquences, eh bien, on trouve très peu de différence ou une seule par rapport à la séquence d'Anderson, qui est la séquence moderne actuelle, alors qu'on observe quand même un certain nombre de différences, plus d'une vingtaine, lorsque l'on compare ces séquences à celles des hommes de Néandertal. Donc a priori, effectivement, cela signifie que les hommes de Cro-Magnon sont bien éloignés de l'homme de Néandertal. Néanmoins, je veux dire, comme c'est le cas souvent quand on publie sur des résultats d'ADN anciens, on dit oui, mais attention, en fait, ces résultats, c'est sûrement des contaminations, c'est pas bon ce qu'ils ont fait. Et donc, pour un peu mettre fin au débat, l'équipe de David Serre a lui, en fait, également étudié à la fois des Néandertaliens et des hommes modernes, mais il a utilisé, en fait, des séquences pour amplifier cet ADN, des séquences qui sont spécifiques de Néandertaliens. Et en faisant cela, en utilisant des séquences spécifiques de Néandertaliens, il a obtenu des résultats, donc des produits d'amplification, à partir de l'ADN extrait des Néandertaliens, mais pas à partir de l'ADN extrait des hommes modernes, enfin des hommes de Cro-Magnon. Et il en a conclu que c'était bien la preuve, déjà qu'il n'y avait pas eu de contamination, et qu'on avait bien deux espèces distinctes. Alors, à l'heure actuelle, on a en fait des séquences mitochondriales pour près d'une quinzaine de spécimens néandertaliens qui sont, vous le voyez, répartis dans pratiquement toute l'Eurasie. Et ce qui est intéressant, c'est que lorsqu'on compare ces séquences, on a à certaines positions, donc notamment ici à la position 16-234, à la position 16-244 ou à la position 16-256, des séquences qui sont vraiment spécifiques aux néandertaliens, puisque cette combinaison de trois séquences, on ne la retrouve pas à l'heure actuelle. Donc ça voudrait bien dire qu'effectivement, c'est spécifique et qu'on a au niveau du pool mitochondrial deux espèces différentes. Alors, vous le savez, parce qu'on en entend beaucoup parler à l'heure actuelle dans la presse, il y a eu vraiment des progrès technologiques fulgurants qui ont été réalisés, notamment des systèmes de séquençage à haut débit ont été mis au point. Et donc, grâce à ces systèmes, il devient possible maintenant de séquencer des génomes dans leur totalité, des génomes entiers. Donc, grâce à ces techniques, eh bien, une première séquence a été publiée en 2008 par Sven Tepabo, donc une première séquence d'un génome mitochondrial entier. Donc là, on ne s'est plus intéressé qu'aux régions HV1, HV2. On a séquencé toute la molécule. L'année suivante, c'est sur 5 individus qu'a été fait ce séquençage complet. Donc au total, on disposait de 6 séquences néandertaliennes, 6 séquences complètes du génome mitochondrial. Et quand on comparait ces séquences complètes, ces 16 569 paires de bases à de l'ADN moderne, eh bien on se rendait compte qu'encore, on avait beaucoup de différences. Donc à partir de là, les auteurs ont conclu qu'effectivement, on avait bien deux espèces différentes. Mais certains ont dit, est-ce que finalement, c'est suffisant? On travaille sur l'ADN mitochondrial. Est-ce que l'on peut, comme ça, tirer des conclusions alors que l'ADN mitochondrial ne représente que 0,0005% du génome entier? Et donc, effectivement, c'était insuffisant. On ne pouvait pas éliminer l'hypothèse que peut-être l'homme de Néandertal, s'il n'avait pas contribué au génome mitochondrial, avait pu contribuer au génome nucléaire, d'autant plus que c'est un petit peu plus compliqué, mais le génome mitochondrial est un génome qui subit la dérive génétique, et on peut penser aussi qu'on aurait finalement perdu ces séquences qui pouvaient être communes au cours de l'évolution. Donc il fallait absolument s'attaquer au génome nucléaire, et toujours grâce aux progrès réalisés, donc même avant le séquençage complet de l'ADN mitochondrial, deux équipes avaient, avec des techniques différentes, s'étaient intéressées au génome nucléaire de Néandertal. Et ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont travaillé sur le même spécimen. Donc, indépendamment, on extrait de la poudre d'os du même spécimen néandertalien. Deux équipes travaillent sur l'ADN nucléaire. La première équipe, celle de Noonan et Toll, en fait, obtient à peu près 65 000 paires de bases de ce génome. Et dans son travail, elle conclut que le métissage est peu vraisemblable. Il n'y a pas eu de croisement entre Néandertal et Homo sapiens. La deuxième équipe, celle de Green, travaillant avec une autre technologie mais sur le même individu, conclut, elle, qu'au contraire, des flux génétiques ont pu se produire entre l'homme de Néandertal et l'homme anatomiquement moderne. Donc là, évidemment, c'était deux résultats contradictoires. Là, la communauté scientifique est restée un petit peu suspicieuse. Comment est-ce qu'à partir du même individu, on pouvait obtenir des résultats contradictoires? Alors, bien sûr, les résultats de chacun ont été revus. Et effectivement, on s'est rendu compte que l'équipe de Green, qui avait séquencé à peu près 1 million de bases, en fait, avait à peu près 40% des bases qui étaient issues d'individus contemporains. Autrement dit, il y avait des contaminations. Alors, ils ont fait quand même leur mea culpa, hein, ils ont reconnu, et ils ont publié quelque temps après un article où ils ont démontré maintenant toutes les mesures, toutes les précautions qu'ils vont prendre pour éviter ces contaminations. Notamment, ils peuvent estimer, grâce à l'ADN mitochondrial, les contaminations, grâce au chromosome Y également, grâce à l'autosome. Donc, en fait, c'est vraiment un article qui décrit les mesures prises pour évidemment que cela ne se reproduise pas. Et récemment, puisqu'en mai 2010, cette même équipe publie donc un article qui est une ébauche en fait du génome de l'ADN, de l'ADN nucléaire donc de Néandertal, réalisée quand même à partir de 3 individus différents. Et selon cette étude, eh bien, entre 1 à 4% de l'ADN serait commun aux Néandertaliens et aux Eurasiatiques. Donc cette même équipe qui avançait effectivement grâce à l'ADN mitochondrial aussi, qui n'avait pas eu de croisement, dit que finalement, peut-être, on a quand même des croisements. Cet article met également en évidence que l'homme de Néandertal est plus proche des populations eurasiennes que des populations africaines, puisque finalement, on ne retrouve pas dans le génome des Africains cette proportion du génome néandertalien. Donc leur conclusion est que l'homme de Néandertal aurait pu contribuer au pool génétique de l'homme moderne, mais finalement de façon relativement mineure. Dans cet article, on apprend aussi que ce croisement aurait pu se faire non pas en Europe, mais plutôt au Proche-Orient, donc après la sortie d'Afrique, quand les espèces se sont rencontrées. Alors bien sûr, que penser de cette étude ? qui, finalement, qu'est-ce qu'elle nous apprend ? Elle nous apprend qu'on a possiblement un flux de gènes entre les deux groupes d'hominidés. Le moment et le lieu où ce brassage génétique a pu survenir reste néanmoins à déterminer, puisque là, beaucoup, en fait, de choses sont dites à ce sujet-là, on ne sait pas trop. La position phylogénétique exacte de l'homme de Néandertal n'a pas encore été établie, parce que finalement, malgré ces données, eh bien, on n'arrive pas à savoir si on peut vraiment le mettre dans la même espèce ou dans des espèces différentes. Donc pour beaucoup, ce flux de gènes potentiels ne prouve pas qu'ils appartiennent à la même espèce. Et donc pour moi, la question de la relation entre les hommes de Néandertal et les hommes modernes reste absolument ouverte. Alors, est-ce qu'on peut se fier à ces résultats ? Je vais essayer de répondre à l'interrogation du professeur Brunet. Donc c'est très difficile à estimer. Ce que l'on peut dire, c'est que c'est vrai que les auteurs de cet article ont pris beaucoup de précautions. Et en ce qui me concerne, je pense effectivement que le problème des contaminations peut être mis de côté. Après, c'est vrai qu'on a énormément de données qu'il faut analyser, qu'il faut établir, et que finalement les comparaisons de ces séquences n'ont été faites qu'aux individus de 5 hommes modernes. Donc ça fait très très peu. Donc ce que je pense, c'est qu'on en est vraiment au balbutiement, que ce qui est intéressant dans cet article, c'est plutôt la somme de données que l'on va pouvoir obtenir sur Néandertal. Et ça, c'est très intéressant parce que je vous rappelle qu'on a déjà établi, grâce, non pas à ces données, mais à d'autres précédentes, qu'a priori, les Néandertaliens ou certains d'entre eux pourraient avoir effectivement la peau claire et les cheveux pâles, qu'a priori, d'après leurs gènes, ils auraient eu une aptitude au langage articulé et que surtout, certains d'entre eux auraient perçu le goût. Et donc que certains avaient ce qu'on appelle un phénotype goûteur capable de détecter le goût amer. Donc je crois que ce qu'il faut retenir de cette étude, c'est pas finalement est-ce qu'il y a eu croisement ou il n'y a pas croisement, parce que quand on lit l'article, finalement, ça représente qu'une infime partie de l'intérêt de l'article. L'intérêt de l'article, c'est que l'on voit qu'on étudie vraiment, on va pouvoir comparer des gènes, établir notamment qu'il y a eu de la sélection positive sur certains gènes, et peut-être arriver à déterminer finalement ce qui fait que l'espèce moderne a pu survivre alors que Néandertal s'est éteint. Donc je crois que c'est ça qu'il faut retenir. Il faut retenir également que c'est vraiment, on en est au début de ces travaux et que dans les années à venir, on va vraiment progresser, mais que c'est un travail qui est vraiment une ébauche comme le génome. Alors pour terminer, je voudrais rapidement vous présenter un dernier exemple qui concerne en fait une étude génétique réalisée donc par l'équipe de l'Alouetza Fox et qui concerne l'analyse d'un groupe de 12 Néandertaliens qui a été trouvé en fait sur le site d'El Cidron en Espagne. Donc vous voyez que ce groupe en fait était constitué de 6 adultes parmi lesquels 3 individus masculins et 3 individus féminins, de 3 adolescents et de 3 enfants. Et donc là, c'est de l'ADN mitochondrial qui a été étudié. À partir de cet ADN mitochondrial, les auteurs ont pu démontrer qu'il y avait en fait 3 lignées mitochondriales différentes. Et si on étudie pour chaque individu ces lignées, on se rend compte que, curieusement, les 3 individus masculins, vous avez ici l'adulte 1, l'adulte 2 et l'adulte 6, présentent tous la lignée grand 1. Alors que pour les individus femelles, eh bien vous avez B, C, A. Autrement dit, pour ces 3 individus, vous voyez qu'on a une hétérogénéité dans les lignées mitochondriales, alors que les hommes, en fait, appartiennent tous à la même lignée mitochondriale. Donc à partir de ces données, eh bien les auteurs ont pu établir des hypothèses. Selon cette hypothèse, eh bien il leur semble que ce groupe de Néandertaliens aurait pu évoluer selon un mode patrilocal, c'est-à-dire que c'est les femmes néandertaliennes en fait, qui quitteraient leur groupe pour rejoindre le groupe de leur conjoint. À partir de ces données, les auteurs ont également fait une autre hypothèse, c'est que si vous regardez bien, l'enfant 1 et le jeune enfant appartiennent tous deux à la plus groupe C Ce qui signifie qu'en fait, pour eux, en fait, la maman pourrait être l'adulte 4, tandis que l'enfant 2 qui appartient à l'appel groupe A, eh bien, pourrait être l'enfant de l'adulte 5. Et donc, à partir de ces données, qui restent hypothétiques, puisque là, je vous le rappelle, ce n'est pas basé sur de l'ADN nucléaire, mais sur de l'ADN mitochondrial, ils ont fait l'hypothèse donc, que certains liens mère-enfant pouvaient être déterminés, et ils en ont déduit, alors pour moi, ça reste de la fiction, un intervalle de naissance de 3 ans, puisque vous voyez que si on regarde l'enfant 1 estimé à 5 ou 6 ans et l'enfant 3 à 2 ou 3 ans, on aurait bien un intervalle de naissance de 3 ans. Et à partir de cet intervalle de naissance de 3 ans, ils pensent établir des modèles qui arriveraient à reconstituer un peu l'histoire des Néandertaliens et éventuellement à essayer de trouver les facteurs d'extinction qui auraient pu contribuer donc à la disparition de l'homme de Néandertal. Donc j'ai tenu à vous présenter cet exemple parce que je crois que ça illustre bien ce qu'on a envie de faire en ADN ancien, c'est qu'on a des données. À partir de ces données qu'on a eu tant de mal et tant de difficultés à obtenir, on va établir des hypothèses. Et parce que vraiment, on a envie d'aller plus loin, eh bien, on est quand même tenté, effectivement, d'aller au-delà et de donner des indications qui relèvent plus de la fiction. Donc pour terminer, je voudrais simplement dire que l'anthropologie moléculaire, vous le voyez, a permis d'investir tout un champ de questions qui sont restées à l'état d'hypothèses interprétatives par les anthropologues ou les paléoanthropologues, mais que finalement, au final, un grand nombre de questions restent complètement ouvertes. Cela étant, j'aimerais également souligner que les progrès technologiques des 10 dernières années ont été absolument fulgurants. Que si on avait fait cette conférence il y a 10 ans, on aurait dit que ce n'était pas possible de séquencer un génome nucléaire néandertalien. Vous le voyez, aujourd'hui c'est possible. Donc finalement, tout ce qui est fiction aujourd'hui pourrait bien devenir réalité demain. Je vous remercie de votre attention.